Au micro, Ilan Rosanquier, qui est heureux de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix, parrainé par J-Call et LPM. Nous ne pouvons pas commencer notre émission sans exprimer tout d'abord tristesse, colère et condamnation des attentats odieux qui ont été commis à Jérusalem vendredi soir et samedi matin dernier. Nos pensées vont aux familles des victimes et à leurs proches. Rien ne saurait justifier ni excuser ces assassinats. Il ne faut cependant pas oublier le contexte de violence qui prévaut dans les relations entre Israéliens et Palestiniens depuis plusieurs mois déjà en particulier. Et il importe de ne pas alimenter ce climat de violence et d'instrumentaliser les attentats pour développer, par exemple, les colonies dans les territoires occupés et multiplier des expulsions, souvent problématiques, parfois injustifiées. On ne peut oublier que seule une solution politique permettra de mettre un terme à cette spirale de la violence et à ce climat délétère. Nous avions prévu aujourd'hui de parler de la contestation sociale dans la société civile israélienne qui se développe contre le projet de réforme de la justice et plus particulièrement de la contestation qui se développe dans les secteurs économiques de cette société civile. Et donc pour ce faire, nous recevons Jacques Bendelak en direct d'Israël. Bonjour Jacques, vous m'entendez ?
Oui, bonjour.
Bonjour donc. Donc vous êtes économiste et vous avez beaucoup travaillé sur l'économie et la société israélienne, ainsi que sur les relations israélo-palestiniennes. Vous avez publié de nombreux ouvrages dont on trouvera les références sur le site. Et c'est donc au titre de votre expertise que nous vous avons convié à prendre part à cette émission. Mais tout d'abord, actualité oblige, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, termine sa visite en Israël, va se rendre à Ramallah pour rencontrer Abou Mazen, le président de l'autorité palestinienne, avant de retourner à Washington. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de cadrage sur l'importance économique des USA et des relations économiques entre Israël et les États-Unis?
Oui, écoutez, les États-Unis sont le principal partenaire économique d'Israël depuis longtemps. Hein. En 2022, ils étaient le principal client pour les marchandises israéliennes, qu'ils absorbaient 25% des exportations israéliennes, c'est beaucoup pour un seul pays. Ils absorbaient aussi beaucoup, ils fournissaient aussi beaucoup d'importations. Donc, du point de vue du commerce, les États-Unis sont le premier partenaire d'Israël depuis longtemps. Hein. Alors, les relations, c'est pas seulement du commerce, c'est aussi des échanges de services, des échanges de capitaux, de la coopération technologique, coopération militaire, tout ça est très important pour les relations entre les deux pays.
Et on peut noter une évolution au cours de ces dernières années où le poids reste plus ou moins stable?
Non, le poids est resté plus ou moins stable. En tout cas, le poids économique reste plus ou moins stable. La seule petite nuance que l'on voit, c'est que la Chine a rattrapé les États-Unis comme partenaire important pour Israël. Mais sinon, les États-Unis, en 2023, restent le premier partenaire économique et commercial d'Israël. Donc je crois qu'on peut dire que Israël a toujours besoin des États-Unis, à la fois pour son commerce, pour sa technologie, pour sa sécurité, pour beaucoup de dossiers internationaux, le nucléaire iranien, vous savez. Donc il y a beaucoup de choses qui unissent les deux pays depuis longtemps.
Bon, nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions, et en particulier sur la dimension politique des relations israélo-américaines, à l'occasion du Zoom que J-Call et La Paix Maintenant organisent mercredi 8 février, Les auditeurs intéressés pourront trouver toutes les informations sur les sites ou les pages Facebook de J-Call ou de la Paix Maintenant. C'est bien de la participation, bien entendu, gratuite, mais il est nécessaire de s'inscrire. Alors, toujours dans l'actualité, il est question de mesures de rétorsion à l'égard des familles de terroristes. Et le gouvernement a annoncé son intention de mettre un terme au versement de prestations sociales aux familles des terroristes. Or, Jacques Bendelac, vous êtes un expert de la protection sociale. Vous avez travaillé de très nombreuses années au Bitouar Loumi, l'assurance nationale israélienne. Qu'est-ce que vous inspire ces mesures sur le plan de la protection sociale de non-versement de prestations sociales aux familles de terroristes?
Ce sont des propositions qui sont très difficilement réalisables, aussi bien sur le plan légal hein, que sur le plan, j'allais dire, social et humain. Sur le plan légal, il faut bien comprendre que la sécurité sociale en Israël, elle couvre tous les résidents israéliens. C'est-à-dire, même sans être de nationalité israélienne, du moment qu'on réside en Israël, on est couvert par le Bitouar Loumi. Et donc, les Palestiniens de Jérusalem-Est, qui résident physiquement dans le territoire israélien, sont couverts par la sécurité sociale. Et donc, il est impossible de leur empêcher les versements. On a fait une loi il y a 2 ou 3 ans, mais qui a été rejetée par la Cour suprême. Et donc, à l'heure actuelle, c'est une proposition qui n'est pas vraiment réalisable, sauf de modifier à nouveau à la loi. Hein. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe. Et sur le plan social, il faut bien dire, hein, vous savez, punir les enfants parce que leur père est terroriste, c'est pas toujours quelque chose qui est très bien compris ici. C'est une punition collective qui n'est pas très bien admise ni dans le droit israélien, ni dans le droit international.
C'était des mesures qui étaient annoncées déjà lors de gouvernements précédents et on a l'impression qu'elles traduisent un petit peu un certain embarras du gouvernement actuel qui se trouve confronté à ces actes de terrorisme. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils pouvaient faire porter la responsabilité sur le gouvernement. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au gouvernement, donc ils ne peuvent pas mettre en cause l'opposition et il y a une espèce de désarroi, bien entendu, qu'on peut comprendre. Oui. Ceci étant, il semblerait malgré tout que jusqu'à présent, la majorité des actes de terrorisme ont été commis par des personnes qui ne résident pas en Israël, dont les familles ne résident pas en Israël. Et donc, par conséquent, ils ne sont pas concernés par cette annulation de prestations sociales.
Absolument.
Donc on a l'impression que c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose.
Absolument. Je vais vous donner un chiffre. En 3 ans, cela concerne 3 cas. C'est-à-dire 3 familles qui sont concernées par ce type de mesure. Donc ce n'est pas une mesure généralisée. La plupart des attentats sont commis par des Palestiniens qui ne sont pas résidents d'Israël. Et donc ce sont vraiment des mesures qui sont lancées parce qu'on ne sait plus quoi d'autre lancer, hein, mais qui n'ont pas de retombées immédiates, en tout cas difficilement réalisables.
Abordons maintenant la question donc de cette protestation sociale contre les projets de loi de réforme de la justice portés par le gouvernement et plus particulièrement par le ministre de la Justice, Yariv Levin. On constate donc ces derniers temps parmi la multitude de groupes sociaux qui prennent la parole pour des déclarations, pour signer des pétitions contre ces projets de loi. Il y a ces derniers temps une mobilisation, une expression importante du secteur de l'économie. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent, cette prise de parole des milieux économiques sur des questions politiques ou de fonctionnement de la société, dirais-je?
Non. C'est vraiment la première fois, je crois, qu'il y a une mobilisation aussi large, finalement, de tous les secteurs de la vie économique, de tous les acteurs de la vie économique, hein, les banques, les économistes, les juristes, les gouverneurs, les conseillers. Je crois que tous les secteurs se sont révoltés contre cette réforme qui est proposée. D'ailleurs, une mobilisation qui va de la droite à la gauche, hein, puisqu'il y a aussi des anciens conseillers de Netanyahou qui se sont soulevés contre cela, un prix Nobel. Donc c'est vraiment très large. Hein, non, c'est la première fois que l'on voit ça.
On casse le clivage gauche-droite ou les opposants perpétuels contre les soutiens habituels. D'accord. Et ce qui semble intéressant, enfin nouveau, c'est le fait que cette critique porte sur des sujets économiques. Ce n'est pas une mobilisation pour la préservation de la démocratie en tant que telle, bien entendu, c'est cela aussi, mais c'est aussi sur l'impact économique que risquerait d'avoir ces modifications du système judiciaire en Israël. Comment expliquer le lien qui est fait entre démocratie et économie ? C'est quelque chose qui peut surprendre, a priori.
Oui et non, parce qu'à y voir de plus près, on ne peut pas couper cette réforme judiciaire de l'économie. On ne peut pas couper la démocratie libérale de l'économie, parce que beaucoup d'acteurs de la vie économique, investisseurs, industriels, ont besoin de cette démocratie, de ce libéralisme pour agir. Vous savez, l'économie a besoin de certitude, de stabilité, de démocratie, de libéralisme pour agir en Israël. Hein. Et aujourd'hui, cette réforme, elle nous promet tout le contraire. Hein. Elle nous promet ce qu'on appelle l'illibéralisme. C'est-à-dire le contraire du libéralisme, la puissance de l'exécutif, la justice très affaiblie, des lois personnelles, un pouvoir autoritaire, tout ça c'est contraire au libéralisme et tout ça, ça gêne beaucoup les investisseurs. Vous savez, un investisseur lorsqu'il n'a pas confiance dans la justice, eh bien il n'investit plus. Et voilà, donc c'est ça le risque principal de cette réforme, c'est qu'on n'aura plus confiance dans les institutions, et donc effectivement, les conséquences directes sur l'économie seront la fuite des capitaux, la baisse des investissements, la fermeture des débouchés, tout ça, c'est des retombées directes pour l'économie israélienne.
Est-ce qu'il y a déjà des signes avant-coureurs de cette inquiétude ? Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont annoncé qu'elles n'investiraient plus, des gens qui ont retiré leurs capitaux ? Est-ce qu'il y a déjà des frémissements qui commencent à se faire sentir ?
Absolument, c'est pas seulement des risques théoriques, c'est bien concret. Hein. Il y a eu un fonds norvégien qui, il y a quelques semaines, a déjà déclaré retirer ses investissements d'Israël. Il y a de très nombreuses start-up. La dernière en note, c'était Papaya Global, hein, qui a déclaré qu'elle n'investirait plus en Israël. Donc il y a beaucoup de start-up, de fonds de capital risque.
C'est quoi cette start-up ? Nos auditeurs ne connaissent peut-être pas.
C'est une start-up comme il y en a beaucoup d'autres, hein, qui est très présente dans le digital, dans la cybersécurité, hein, peu importe ses domaines, mais c'est une start-up qui est installée à Tel Aviv et qui a déclaré il y a 2-3 jours qu'elle n'investirait plus en Israël tant que cette réforme serait à l'ordre du jour. Et elle a été suivie par beaucoup d'autres dirigeants d'entreprises qui ont fait les mêmes déclarations. Donc c'est vraiment du concret, des choses qui commencent à se réaliser parce que on n'attendra pas que la réforme soit mise en œuvre pour en tirer les conséquences. Hein. Vous savez, lorsque la réforme sera appliquée, ça ira très vite. Hein. On ne pourra plus revenir en arrière aussi vite. Hein. Et donc, les investisseurs prennent leurs mesures en avance.
Mais d'un autre côté, est-ce qu'un pouvoir fort, entre guillemets, voire autoritaire, quelque part, ne peut pas être perçu comme quelque chose de pouvant assurer une protection aux investisseurs économiques qui ne vont pas être gênés par des mouvements de grève, des contestations, une agitation sociale qui pourrait freiner le développement des affaires?
Oui, mais c'est pas seulement ça. Hein. On voit ce qui s'est passé dans des pays qui ont suivi le même type de politique, la Hongrie, la Pologne, la Turquie. Lorsqu'elles ont mis en place un régime autoritaire, eh bien, leur économie a périclité. Les investissements se sont désintéressés. Hein. Et vraiment, les retombées économiques ont été très négatives. Hein. Donc, le fait qu'un pouvoir autoritaire peut rendre certains services à des investisseurs, mais de façon générale, c'est le libéralisme qui est préféré parce qu'il faut avoir confiance dans le pays dans lequel on agit.
Il y a effectivement un certain nombre d'études qui ont été réalisées par des économistes et des think tanks et qui tendent à montrer qu'il y a un lien positif entre la situation démocratique des pays et leur situation économique. Et plus la situation démographique est meilleure, plus l'économie est vivante, active et...
Absolument. C'est pas par hasard si la technologie ne se développe que dans les pays démocratiques et libérales d'Europe, d'Amérique, Corée du Sud et Israël. Il n'y a pas de technologie importante dans les pays autoritaires et dictatoriaux, parce que l'environnement n'est pas favorable.
Or, effectivement, on sait l'importance, l'impact de la high-tech dans cette start-up nation qu'est Israël, et l'impact sur les rentrées en devises que génère ce secteur. D'ailleurs, on assiste depuis très peu de temps, y compris dans ce secteur, à une mobilisation et à des manifestations. Je crois qu'il y en a même eu une encore ce matin. Des employés du secteur de la high-tech qui manifestent contre ces projets de réforme qui effectivement peuvent, sur le plan économique, peuvent avoir une importance certaine, y compris sur le plan personnel, parce que on peut imaginer par exemple que des mesures seront prises qui sont susceptibles de porter atteinte au principe de la propriété, voire par exemple à la participation des femmes à la vie économique du pays. Et s'il n'y a pas une possibilité de casser ces décisions, ce qui pourrait être le cas si la réforme passe, effectivement, on aura des difficultés à ces personnes pour contester ces mesures injustes. On entendait une économiste israélienne à la radio qui faisait remarquer qu'il y a à peine quelques dizaines d'années, les femmes ne pouvaient pas avoir de compte sans l'autorisation de leur mari en France. Si pour des raisons sociales ou religieuses on instaurait ce type de mesures, on ne pourrait pas faire appel à la haute cour pour qu'elle casse ses décisions, parce que les groupes politiques majoritaires qui feraient passer ce type de décision pourraient contourner la décision de la haute cour, et donc ce type de mesure pourrait théoriquement être mise en pratique.
Absolument, tout ce qui concerne les libertés individuelles, liberté d'expression, le poids de la religion, tout ça sont des facteurs qui influencent l'activité économique. Et si on n'a plus confiance dans les tribunaux, si on n'est pas sûr que la Cour suprême puisse annuler une loi parce qu'avec une loi de contournement, on pourrait ne pas le faire, eh bien tout ça, ça fait fuir les capitaux. Alors c'est vrai que la technologie, c'est un des secteurs importants de l'activité économique en Israël. Et si les capitaux n'arrivent pas, si les cerveaux s'en vont, le coût sera très dur pour cette économie israélienne très tournée vers sa technologie.
Est-ce que l'on peut craindre un départ important de ces cerveaux, qui est un phénomène qui existe en Israël, mais pas seulement en Israël, parce que avec la globalisation qui existe, les mouvements d'un pays à l'autre, ce phénomène ne concerne pas Israël. Mais est-ce que dans le cadre d'une régression démocratique, ce risque serait plus fort qu'il ne l'est d'ores et déjà?
Oui, à mon avis, c'est le danger principal de ce type de réforme. Parce que voir des cerveaux partir, ça veut dire qu'ils ne reviendront plus. Et c'est pas comme des capitaux qui vont et qui viennent. Une personne humaine, ça fonctionne différemment. Et je crois que le risque principal aujourd'hui, c'est de voir cette fuite des cerveaux, qui a toujours existé, bien entendu, puisqu'on vit dans un monde global, mais qui s'intensifiera si le poids, si le rôle de la technologie en Israël vient à se réduire. Et donc les cerveaux, les diplômés chercheront ailleurs ce que ne trouveront pas ici.
Bien, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Il faut quand même rappeler et insister que ce qui est quand même important dans la contestation d'un certain nombre de projets qui pour l'instant sont des projets du gouvernement, c'est bien entendu l'impact économique qu'ils peuvent avoir, mais c'est également leur signification sociale, je veux dire les questions de principe. Si le fait d'attaquer l'économie, d'attaquer la démocratie était rentable sur le plan économique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudrait se satisfaire de ces mesures et les approuver. Là, on est dans le fait que non seulement c'est une atteinte aux principes sur lesquels l'État d'Israël a été créé et que le judaïsme veut promouvoir, mais en plus, elles auraient un effet maléfique sur l'économie. Mais ce n'est pas l'inverse qui est le plus important.
Oui, alors absolument. Hein. L'économie est un des aspects. Il y a les questions sociaux, les questions de liberté, les questions humanitaires. Hein. Tout ça, ce sont des choses importantes qui ont aussi leur retombée dans cette réforme judiciaire qui est sur la table de la Knesset. Oui.
Eh bien, Jacques Bendelak, je vous remercie. Nous aurons sûrement l'occasion de vous recevoir à nouveau pour débattre de d'autres questions à ce micro. Je souhaite à tous nos auditeurs une bonne semaine. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour un prochain épisode de Chronique pour la paix, parrainé par J-Call et la paix maintenant. Et je signale que donc le 8 février, à 19h, il y aura ce Zoom sur les relations israélo-américaines avec la participation de Dominique Moïsi, expert géopoliticien que nos auditeurs connaissent, et Daniel Scheck, ancien ambassadeur d'Israël en France, qui tous deux débattront de cette thématique. Merci et à dans 15 jours.